Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, le compte à rebours est lancé. Dans 2 ans et 9 mois, c'est-à-dire tout à l'heure à l'échelle des Jeux, 1 milliard de personnes tout autour de la planète auront les yeux braqués en mondiovision le 26 juillet 2024 sur la cérémonie d'ouverture qui se veut la plus grandiose, la plus ouverte et participative de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Et cela, au cœur de Paris, avec une odyssée fluviale le long de la Seine et devant ses monuments. Alors voilà, le défi est prodigieux, le rêve immense, et l'homme providentiel qui fait tout pour que ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 soient un triomphe est le seul sportif français à avoir ramené une médaille d'or de 3 Jeux Olympiques différents en canoë et kayak. Sydney, Athènes et Londres. C'est Tony Estanguet. Voilà, l'homme de la situation, l'homme que je reçois et qui est le président de l'organisation des Jeux Paris 2024. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cher Tony Estanguet, est-ce la première fois qu'un sportif qui a vécu les Jeux de l'intérieur à 4 reprises, hein, parce que là j'en ai cité 3, mais Sydney, Athènes, Pékin et Londres, est-ce la première fois donc qu'un sportif médaillé organise dans son pays des Jeux Olympiques en tant que président ?
Alors non, je ne crois pas. Il y a eu un peu tous les profils. Hein. Il y a eu des hommes politiques, il y a eu des hommes d'affaires, mais il y a déjà eu des sportifs. C'était le cas notamment pour les Jeux de Londres avec Sébastien Coe. Oui. Sébastien Coe était le président du comité d'organisation des Jeux de Londres 2012.
Et il avait ramené aussi beaucoup de médailles d'or comme vous.
Voilà, il avait gagné 2 médailles d'or aussi en athlétisme. Voilà, c'était l'une des grandes stars de son pays. Donc ça a déjà été le cas.
D'accord, mais vous le battez quand même puisque vous en avez rapporté 3 médailles
ah,
d'or,
oui,
des
forcément.
JO. Bon, vous affirmez vouloir faire entrer la France dans l'histoire en apportant une nouvelle façon d'organiser les Jeux, c'est-à-dire...
Mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que les Jeux à la française doivent forcément apporter quelque chose de nouveau. Comme la France est pour moi un pays d'olympisme, c'est quand même le baron Pierre de Coubertin qui a rénové les Jeux. La France a accueilli les Jeux d'été en 1900, c'était la première fois qu'il y avait la participation féminine. En 1924, il y a eu les Jeux à Paris, et là c'était la première fois qu'il y avait un village des athlètes, c'était la première fois que les Jeux étaient diffusés à la radio.
Donc
là,
il y a pile un siècle.
Exactement.
Enfin, quand la cérémonie
c'est ça,
démarrera.
Et donc là en 2024, 100 ans après les derniers Jeux d'été,
voilà.
Ce seront aussi les premiers Jeux paralympiques de notre histoire. On n'a jamais organisé les Jeux paralympiques d'été en France. Il faut absolument qu'on démontre combien ce pays peut proposer un nouveau modèle. Donc c'est garder le meilleur des Jeux, la magie des Jeux, les émotions sportives, mais aussi apporter des choses nouvelles en matière d'organisation, plus de sobriété, une parité pour la première
plus
fois.
Plus de sobriété, c'est surprenant ça.
Oui, c'est-à-dire que moi je crois qu'aujourd'hui les Jeux doivent rester connectés à leur temps, à leur époque, et on ne peut plus justifier de construire des équipements sportifs juste pour une compétition qui dure quelques jours, quelques semaines. Donc on est sur un modèle qui est très différent, très responsable. On veut réduire de moitié les émissions carbone. Ce seront les premiers Jeux de l'histoire à être paritaires, autant d'athlètes hommes que femmes.
Oui.
Donc on est vraiment sur un nouveau modèle d'organisation pour garder le meilleur des Jeux et les émotions, mais aussi apporter un événement qui démontre par sa rigueur que tout est pensé pour réduire l'impact environnemental, mais aussi une sobriété budgétaire, puisqu'on est sur un modèle qui est financé par de l'argent privé.
Ah, on va l'évoquer tout à l'heure. Alors, Tony Estanguet, quand vous déclarez que la France a tout pour réussir ces Jeux, bah, c'est d'abord parce qu'ils se dérouleront dans des sites dont la grande majorité existe déjà, hormis le village des athlètes, le village des médias et puis le centre aquatique. Mais certaines épreuves se dérouleront carrément dans des sites de cartes postales, au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides, au Grand Palais.
C'est ça, il faut faire rêver, c'est aussi, il y a 4 milliards de personnes qui vont regarder ces Jeux. Moi j'ai envie qu'ils voient le plus beau visage de la France.
J'ai dit 1 milliard pour la cérémonie d'ouverture.
C'est pour la cérémonie d'ouverture, mais si on prend le cumulé, c'est 4 milliards de personnes qui vont regarder les Jeux de Paris 2024. Ces gens-là, moi j'ai envie qu'ils voient une France qui rayonne, une France qui est belle, le plus beau visage de la France. Et c'est pour ça qu'on a envie de marier le plus beau patrimoine culturel de notre pays, le château de Versailles, le Grand Palais, les Invalides.
Il va y avoir des épreuves au château de Versailles ?
Exactement.
Dans le parc ?
Les épreuves d'équitation seront dans les jardins du château de Versailles.
Incroyable.
Les épreuves de tir à l'arc aux Invalides, les épreuves d'escrime au Grand Palais, les épreuves de beach volleyball au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, les épreuves de triathlon dans la Seine. On aura des épreuves de voile à Marseille, parce que c'est aussi les Jeux de toute la France.
Bien
des
sûr.
Épreuves de handball à Lille, et même des épreuves de surf à Tahiti, parce qu'on est aussi fiers d'avoir cette belle vague
dans nos dom-toms.
Dans nos dom-toms,
voilà.
Et ces territoires qui sont des territoires qui aiment le sport, où beaucoup d'athlètes viennent de ces territoires. On est ravis que pour la première fois, ces dom-toms puissent participer à l'organisation des Jeux.
C'est formidable. Alors, Tony Estanguet, pour organiser ce qui est le plus grand événement sportif et festif de la planète, il faut beaucoup d'argent. Vous êtes donc à la tête d'un projet de 4 milliards d'euros qui fait travailler des milliers de personnes. Or, les Jeux, et vous nous l'avez précisé à l'instant, sont financés principalement par des fonds privés, dont les contrats de partenariat. Alors, il paraît que pour l'instant, vous êtes à 55% du montant escompté des partenariats, qui devrait représenter à peu près 1 milliard 100 millions d'euros. Vous êtes serein, vous êtes tranquille.
Oui, pour l'instant, tout
c'est
se passe
bon
bien.
C'est le bon timing.
C'est le bon timing. On est dans notre trajectoire de financement. On est, comme vous l'avez dit, à un peu moins de 3 ans maintenant de nos Jeux. Et d'avoir déjà sécurisé 55%, un peu plus de 55% de nos revenus, c'est déjà très bien. On est dans les temps de passage. On sait exactement quelle est notre courbe de financement. On a besoin, nous, les grosses dépenses, elles auront lieu en 2023 et 2024. Donc pour l'instant, on est pile poil dans notre timing de financement. Et comme vous l'avez dit, en fait, ce qui est intéressant de retenir, c'est que vraiment, le modèle de Paris 2024, il s'autofinance.
Ouais.
Les Jeux s'autofinancent. Donc c'est la télévision, les partenaires, la billetterie qui vont financer 97% de l'organisation des Jeux.
Ça ne coûtera rien aux contribuables.
Voilà, en tous les cas, 3% du modèle total de l'organisation des Jeux est financé effectivement par cet argent public. Et ça, c'est important parce qu'à l'inverse, ça apporte aussi des emplois, des vraies opportunités économiques. C'est un rayonnement pour notre pays à travers la planète.
Alors, pour expliquer le défi que représente l'organisation des Jeux Olympiques, vous dites, c'est comme courir tout le marathon à la vitesse de pointe du 100 mètres. Mais la crise sanitaire n'a pas ralenti cette vitesse? Parce que la crise sanitaire, elle a forcément impacté 2020 pour les projets de construction, par exemple.
Exactement. C'est-à-dire que, en fait, la particularité quand on est organisateur d'un événement, c'est qu'on doit s'adapter en permanence. Et c'est vrai que cette crise du Covid ne nous a pas facilité la tâche. C'était déjà pas simple d'organiser les 860 épreuves sportives qu'on va devoir, les compétitions qu'on va devoir
860
organiser.
860 épreuves
c'est ça,
sportives.
C'est juste incroyable. Et juste pour vous donner un exemple sur ces 860 épreuves, les deux épreuves de football, il y a plus de matchs organisés que sur la Coupe du Monde de football.
Non.
Alors que c'est que deux épreuves sur les 860. Donc nous, on a effectivement ce gigantisme des Jeux qui est assez impressionnant. C'est un vrai défi logistique. C'est passionnant parce que c'est effectivement des millions de personnes qui vont venir visiter notre pays pour assister aux Jeux. C'est plus de 20 000 journalistes, c'est 15 000 athlètes de 206 pays. C'est un programme de billetterie avec plus de 13,5 millions de billets à vendre. Donc c'est
il va démarrer quand, le programme de billetterie?
Alors, ça commence à peu près 18 mois avant, donc début
d'accord.
2023, on pourra commencer à acheter ses billets.
Alors, creusons un peu, justement, la logistique. Vous souhaitez une cérémonie d'ouverture en centre-ville, au cœur de Paris, avec une scénographie sur la Seine qui irait, je crois, du pont de Bercy jusqu'au pont d'Iéna, avec au moins 500 000 spectateurs le long des berges, et puis les athlètes amenés sur des barges jusqu'à la Tour Eiffel. Tout ça, ça va être absolument grandiose. Je parlais tout à l'heure d'odyssée fluviale. Bon, c'est prodigieux sur le papier, mais ça implique une logistique et puis une sécurité démente. Bien plus complexe, sans doute, que dans un stade, parce que d'ordinaire, une cérémonie d'ouverture, ça se fait dans un stade.
Exactement, ça a toujours été dans un stade, mais depuis le début, on n'a jamais choisi la facilité. Depuis le début, on se dit, les Jeux, c'est rare, c'est une fois tous les 100 ans. Notre génération ne revivra peut-être jamais les Jeux. On a envie d'ouvrir les portes des Jeux. On sait faire des événements très populaires, très festifs. Et il ne faut pas qu'on recule là-dessus, parce qu'on a besoin dans notre société de retrouver ces grands marqueurs qui apportent des émotions.
Mais alors, je voudrais savoir, est-ce que, par exemple, les métros existants vont suffire pour que le public se déplace? Parce que, par exemple, vous savez que la mairie de Paris a décidé, indépendamment des Jeux, bien sûr, d'interdire la circulation de façon définitive dans le centre de Paris dès l'été 2022. Donc, pour les transports, comment vous allez organiser
alors,
tout ça?
Alors, justement, nous, on a disposé tous nos sites de compétition pour qu'ils soient desservis par les transports en commun. Parce que, encore une fois, si on veut réduire de moitié les émissions carbone, il faut aussi changer nos habitudes et nos comportements. Donc, effectivement, effectivement, ben, pour aller sur les sites de compétition, il faudra prendre des transports en commun, parce qu'ils sont tous desservis par les transports en commun. Et c'est important aussi que chacun s'engage dans l'organisation de ces jeux, à avoir des jeux plus verts, plus vertueux. Je pense que c'est cette sobriété. Aujourd'hui, on sait qu'on va, avec ce changement climatique, vers l'obligation de changer nos habitudes de vie. Et l'événement qui est le plus populaire et le plus important dans le monde doit être aussi une locomotive pour faire changer ses habitudes.
Vous avez déjà signé des partenariats avec les leaders mondiaux de la cybersécurité ?
Oui. Ouais. On a déjà signé effectivement avec 3 grands acteurs mondiaux, leaders sur le marché, que ce soit Orange, Atos ou Cisco. On a là vraiment, entre guillemets, les meilleurs acteurs au monde pour garantir la sécurité des jeux d'un point de vue cyber, parce que c'est vrai que c'est un événement qui est très exposé, très attaqué.
Très exposé. Bon, il reste à peu près 1000 jours, vous parvenez à dormir la nuit, Tony Estanguet.
Mais oui, c'est vrai que je ne vois pas les journées passer, les semaines défiler. J'ai une chance incroyable d'être associé à ce projet. Je me suis construit grâce au sport, je me suis construit grâce aux jeux. Aujourd'hui, j'ai cette responsabilité d'organiser les jeux dans mon pays. Et je peux vous dire que je mets toute mon énergie, parce que cette tâche, elle est inouïe, inespérée pour moi, et j'ai vraiment envie que ces jeux réussissent.
Bon, le chemin qui est le vôtre et qui est franchement assez prodigieux, on va l'évoquer dans un instant. On fait une pause très courte et on retrouve tout de suite mon invité, Tony Estanguet.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Il est l'homme de la situation, Tony Estanguet. 3 fois champion du monde de canoë kayak, 3 fois médaille d'or aux Jeux Olympiques, diplômé de l'ESSEC, qui préside l'organisation des JO. Peut-être les plus attendus depuis le début de ce millénaire, les Jeux Olympiques dans la ville Lumière, à Paris. Et il est mon invité. Alors Tony Estanguet, la passion du canoë, parce que c'est plutôt le canoë que le kayak, chez les Estanguet, c'est une histoire de famille et c'est une histoire d'homme. Votre père, qui était fils d'agriculteur près de Pau, a participé au championnat d'Europe, au championnat du monde de canoë-kayak. Il a organisé en fait l'enfance de ses 3 fils, je précise que vous êtes le plus jeune, autour de la pratique des sports de nature, l'escalade, le ski, le canoë. Il paraît que tous les mercredis, tous les week-ends étaient dévolus à ça. Donc je voudrais savoir, vous n'avez pas le souvenir d'avoir été forcé, bien sûr, vous adoriez, mais vous n'avez pas eu non plus l'opportunité peut-être de rêver d'autre chose. En fait, fallait suivre.
Oui, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Je n'ai jamais eu effectivement envie de faire autre chose. Pour moi, ça paraissait normal. Je suis un peu, c'est comme Obélix, quoi. Je suis tombé dans la marmite depuis tout jeune et je suis tombé dans cette famille de sportifs, le petit dernier, effectivement. Et j'ai tout de suite adoré parce que le sport, effectivement, me procurait des émotions très fortes.
L'adrénaline.
De l'adrénaline, ces sentiments un peu d'engagement dans ces sports de nature où il faut, au ski pendant l'hiver, dépasser un peu ses peurs au début, ou dans les rivières, ou dans les océans, ou voilà.
Les rivières, le canoë quand même, ça se pratique dans un environnement hostile, assez dangereux. Bon, les rivières, les courants, ils peuvent être très forts. L'hiver, l'eau, elle est très froide. Et votre père avait une méthode d'apprentissage à la dure, hein, très exigeante.
Ouais, c'est vrai que je pense qu'on a été formé à la dure un petit peu, même si encore une fois, on n'a jamais été forcé. On avait tout,
non, bien sûr,
beaucoup
mais
de fierté à la fin des entraînements et des moments de sport, d'avoir partagé ces moments-là, parce qu'on avait réalisé des choses, on était fiers de les avoir réalisées. Moi, je me souviens de rapides, j'avais très peur de les franchir, mais il était hors de question pour moi
De ne pas le faire.
J'avais envie d'être capable, comme mes grands frères, comme mon père, de descendre certaines rivières. Donc j'ai été formé, effectivement, un peu poussé de temps en temps. Mais
votre père passait devant et il attendait que ses fils, dont le plus petit, suivent.
Exactement.
Même s'il était effrayé.
Et au final, je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait.
Forcément.
Il n'y a jamais eu aucun problème. Et ce ne sont que des bons souvenirs, même si, effectivement, bah, dans ces sports-là, des fois, pour progresser, pour franchir un cap, il faut aller un peu au-delà de ses limites, entre guillemets, et s'engager dans des choses dans lesquelles on n'est pas serein. Voilà.
Alors, une rivière, c'est un terrain de jeu qui évolue tout le temps, n'est-ce pas, en fonction de la pluie et du vent. Il paraît qu'il faut apprendre la lecture de l'eau. Ah, je trouve ça formidable comme
formule. Ouais, c'était fascinant, effectivement, parce que moi, je me suis rendu compte que dans toutes ces activités de pleine nature, Y a des choses passionnantes d'observation, des éléments naturels qui sont tellement puissants, que ce soit l'eau, le vent. Voilà, c'est fascinant de voir que finalement l'eau a ce pouvoir très aléatoire. Et effectivement... comment
c'est
on
un terrain de jeu tellement
lire.
Mouvant.
Où est-ce que l'eau va le plus vite? À quel endroit, quelle trajectoire je dois choisir pour gagner cette compétition? Et donc, c'est essayer d'anticiper les mouvements aléatoires de l'élément naturel. J'ai trouvé ça fascinant de découvrir les rivières pyrénéennes qui sont différentes des rivières dans les Alpes ou des rivières en Amérique du Sud et ainsi de suite.
Il paraît qu'à l'âge de 10 ans, vous aviez déjà descendu en canoë les plus belles rivières d'Europe.
Oui, c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance, effectivement, de partir en vacances pour découvrir des rivières et des montagnes en Europe et puis ensuite sur d'autres continents. Et c'était notre passion. Et on oubliait à ce moment-là, on ne parlait pas de compétition. On parlait de contact privilégié avec la nature pour vivre des moments absolument uniques de cohésion, de partage.
Alors, dans un canoë, on est... Les jambes sont complètement allongées ou pas?
C'est la différence justement entre le canoë et le kayak. Dans le canoë, en fait, on est à genoux et on a une pagaie simple.
Ouais.
Dans le kayak, on est assis et on a une pagaie double. C'est-à-dire qu'on pagaie des deux côtés. Là, c'est l'image des Esquimaux. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Ça, c'est le kayak. Alors que le canoë, c'est l'image des Indiens. Donc là, on est plutôt à genoux avec une pagaie simple et il faut changer de côté. Donc c'est une trajectoire un peu différente.
Bon, quand il ne s'agissait pas de canoë, il paraît que votre père vous a emmené en randonnée dans les Pyrénées où vous faisiez faire du parapente.
Ouais, on a goûté à tous ces sports parce que c'est vrai que les émotions, les sensations de vitesse, de glisse, d'équilibre, elles sont très complémentaires, très différentes, qu'on soit sur l'eau ou à la montagne ou effectivement dans les airs. Et on adorait ça, nous, parce qu'on avait cette chance, entre guillemets, d'avoir un père qui maîtrisait tous ces sports-là, qui était breveté d'État dans les différents sports. Donc, il nous a fait goûter à toutes ces pratiques-là. Et
c'était la meilleure préparation pour éventuellement une compétition de haut niveau.
Oui, mais à ce moment-là, on ne se posait même pas la question, en fait. On ne faisait pas
mais
ça
peut-être que lui en rêvait
pour devenir champion. Et lui, il avait juste envie de nous initier à ces moments de sport pour nous faire vivre, encore une fois, des expériences totalement inédites et fortes. Parce que moi, je m'en souviens de mes premières fois où je me suis retrouvé sous un parapente. Je peux vous dire que je m'en souviens encore.
Alors, Tony Estanguet, le premier champion de la fratrie, ça a été votre frère aîné, Aldric, champion de France donc en canoë, mais il n'a pas poursuivi une carrière internationale. Alors, le deuxième fils, Patrice, qui a 5 ans de plus que vous, a enchaîné. Et alors là, vraiment démarre une histoire qui est la dramaturgie d'une tragédie grecque. Votre frère adoré, donc Patrice, c'est votre référence en tout. Vous avez toujours eu envie de lui ressembler. En 96, Patrice est médaillé en canoë aux Jeux d'Atlanta. Donc il vous montre la voie. Mais en 99, vous apprenez qu'il n'y aura qu'une seule place pour les Jeux de Sydney l'année suivante. Et vous allez donc devoir vous battre en compétition contre votre frère pour décrocher cette unique place et vous envoler pour Sydney. Comment se bat-on contre son frère ?
Ah, ça a été, je pense, la compétition la plus difficile de toute ma carrière. Ensuite, j'en ai eu pourtant des compétitions difficiles, notamment aux Jeux Olympiques avec un Slovaque Martikan où on s'est battu souvent à quelques dixièmes de seconde, voire centièmes. Mais c'est vrai que pour moi, la compétition la plus difficile de toute ma carrière, ça a été celle de ces qualifications pour mes premiers Jeux de Sydney 2000, parce qu'elle était face à mon frère et que mon frère était mon modèle, ma référence, celui qui m'avait tout appris, qui m'avait permis d'atteindre ce niveau-là. Et ce jour-là, je savais que pour réaliser mon propre rêve de participer aux Jeux Olympiques et de les gagner, parce que c'était déjà mon objectif,
Fallait occulter tout sentiment.
C'est ça.
Voilà, pour puiser en soi une espèce de rage, comme s'il n'y avait jamais eu de fratrie, c'est ça ?
Exactement.
Mais quand je parle de rage, c'est-à-dire, bien évidemment, au sens noble du terme, c'est-à-dire devenir un guerrier.
Et mettre de côté ses émotions.
Voilà.
Et on n'est pas habitué à ça, c'est pas naturel, mais c'est vrai que ça a été aussi un apprentissage pour moi, une anticipation de me dire, ce jour-là, il ne faudra pas avoir d'émotion. Il faudra réussir à rester concentré dans l'action, faire ce que j'ai à faire, et ne pas penser à mon frère. Alors, la chance que j'ai, entre guillemets, dans mon sport, c'est qu'on se bat contre le chrono. on se bat pas contre l'adversaire direct, c'est chacun passe à son tour et chacun fait ce qu'il peut de mieux. C'est pas comme dans un sport de combat ou un sport de raquette en opposition directe où on est vraiment face dans l'action à son frère. Là, on passait chacun à son tour et entre guillemets, bon, c'était le meilleur qui gagnait et qui pouvait partir.
Mais alors, Tony Estanguet, il paraît que votre frère est venu vous parler avant que ne démarre l'entraînement pour cette unique place pour Sydney en vous disant, bon, pour que notre relation de frère ne se dégrade pas, eh ben, à partir de maintenant, nos chemins vont se séparer et on ne s'entraînera plus ensemble.
Oui,
il avait raison.
Il avait raison. Il avait raison et il a toujours su anticiper les choses pour que ça se passe bien. D'abord, pour me faire progresser et m'emmener avec lui à travers les compétitions un peu partout dans le monde. Et puis, quand on a compris qu'on allait être en opposition directe, pour préserver notre relation de frère, il a pris les devants et il a dit, voilà, il vaut mieux là, éviter tout risque de tension entre nous.
Donc en ce moment, chacun, on ne se voit plus.
Pendant quelques semaines, quelques mois, chacun s'entraîne dans son coin. Comme ça, au moins, voilà, il n'est pas impacté par l'autre. Et on se retrouve à l'arrivée de la compétition. Et puis, le meilleur gagnera. Et ensuite, l'autre deviendra son supporter.
Alors, il paraît que votre frère aîné et votre père ont préféré ne pas venir pendant justement les qualifications pour Sydney qui avaient lieu dans la ville de Foix. En fait, ils savaient que le bonheur de l'un allait faire le malheur de l'autre.
Ouais, c'était terrible pour toute la famille. C'est vrai que ça a été un événement familial absolument terrible, même pour nous deux. Hein, parce que moi, c'était très difficile, je peux vous dire, qu'à la ligne d'arrivée, même si j'ai réalisé mon rêve de me qualifier pour mes premiers Jeux, bah, j'étais un peu anéanti parce que j'ai tout de suite pensé à la détresse de mon frère qui, à ce moment-là, était le favori. Il était mon aîné de 5 ans, grand favori au niveau mondial, puisqu'il avait gagné effectivement cette médaille olympique 4 ans plus tôt. Lui, il voulait se qualifier pour aller gagner ses Jeux. Et donc, c'était terrible pour moi. Mais au final, on a su le gérer. Et l'histoire est belle parce que quelques années
après,
plus tard...
Après, là, on fait un teasing.
Voilà,
l'histoire est magnifique quelques années plus tard. Mais justement, ça, on va en parler tout à l'heure. Je reste simplement sur ces éliminatoires. Ils se sont déroulés sur 4 jours et 6 passages. Il paraît qu'à la fin du 5e passage, votre frère et vous étiez ex aequo.
C'était du jamais vu. Du jamais vu, c'était vraiment un mano à mano avec deux athlètes qui ne voulaient pas lâcher. On a, je crois, vraiment réussi pendant cette semaine-là à livrer des prestations de très haut niveau malgré ce contexte personnel, émotionnel qui était très difficile. Il y avait un stress incroyable parce que dans un sport comme le nôtre, se qualifier pour les Jeux, ça vous change complètement une carrière. Mais on a réussi à faire les choses de manière à ce qu'on soit vraiment concentré sur le sport et mettre de côté justement ces émotions familiales. Et moi, c'est vrai que derrière, ma vie a complètement changé au-delà du sport. J'ai ce jour-là pris mon envol. J'étais jusque-là le petit dernier d'une famille qui suivait le mouvement. Et ce jour-là, finalement, j'ai libéré en moi une capacité à me gérer et assumer une forme de leadership.
À vous affranchir, en fait. Alors voilà, Tony Estanguet, tout ça s'est joué à presque rien, mais c'est vous qui avez pris l'avion pour Sydney, galvanisé comme aucun autre sportif ne pouvait l'être, puisque vous aviez battu votre frère, vous lui deviez bien une médaille d'or, et bien justement, vous l'avez ramené. Allez, on retrouve tout de suite le président de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Il veut casser les codes pour des Jeux Olympiques et Paralympiques plus ouverts et participatifs qui se dérouleront l'été 2024 dans l'écrin unique qu'est notre capitale. Voilà, je reçois le champion Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux à Paris 2024. Alors Tony Estanguet, on vient d'évoquer ce combat presque fratricide, comme dans une tragédie grecque, je le répète, pour décrocher l'unique place pour participer aux Jeux Olympiques de Sydney. Cet épisode, il vous a donné une telle force que dans les 3 mois qui ont suivi, vous avez remporté en canoë la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde et la médaille d'or aux JO. Gloire absolue, pendant que, pour votre frère, tout s'arrêtait. Alors, il paraît qu'il a créé pour vous un club de supporters.
C'est incroyable. Enfin, malgré la déception, j'imagine combien pour lui ça a dû être difficile. Son objectif, c'était vraiment de devenir champion olympique à Sydney en 2000. Il était numéro 1 mondial à ce moment-là.
Il avait eu la médaille de bronze et il avait la médaille d'or.
Voilà. Et là, son objectif, c'était vraiment de gagner l'or. Et malgré la déception donc, de son élimination pour la qualification, quelques semaines après cette course-là, il a dit « Maintenant, je deviens le premier supporter de Tony, de mon frère, de mon petit frère, et je vais l'aider. Et d'ailleurs, je vais créer un club de supporters parce que je sais que ça va être difficile pour lui. Il n'a que 22 ans.
Et oui.
Ses premiers jeux, moi, je les ai vécus il y a 4 ans. Je sais que c'est dur de ramener une médaille. Mais lui, il peut le faire. Et il faut qu'on mette toutes les conditions de réussite. Et il n'a eu de cesse pendant tout l'été.
Donc il a rabattu toute la région.
C'est ça. Il a organisé les retransmissions de mes compétitions, de préparation. Et puis le jour J, et même si c'était avec le décalage horaire en pleine nuit, ils ont fêté ça. Et j'ai été accueilli comme un roi après à mon retour. Et c'était tellement important pour moi parce que encore une fois, c'était pas facile non plus pour moi de gérer cette relation de frère. Je savais pas trop comment il vivait
tout
ça.
Vous étiez parti seul, sans votre père ?
Ouais, j'étais parti tout seul. J'étais parti tout seul avec l'équipe de France, bien évidemment.
De l'autre côté du monde.
De l'autre côté du monde. Et quand je suis revenu, ça m'a fait un bien fou de les retrouver, de les voir heureux, contents pour moi. Et c'était une réussite familiale parce que sans eux, je n'aurais jamais pu atteindre ce niveau-là. Donc c'est vraiment une belle histoire de famille et effectivement mes victoires au jeu, je leur dois.
Alors Tony Estanguet, c'est à Sydney que vous avez rencontré votre grand rival en canoë, l'adversaire d'une vie, j'ai envie de dire, le Slovaque Michal Martikán, le seul qui pendant 12 ans semblait pouvoir vous dérober les titres de champion du monde ou les médailles d'or aux JO. C'est étonnant d'avoir, en fait, tous les deux, c'est comme si vous aviez coopté complètement le canoë. Pendant des années, ça n'a été que Tony Estanguet et Michal Martikán.
C'est ça. On a trusté les médailles d'or pendant 4 Olympiades, 5 Olympiades même, pardon. Et,
wow.
Et voilà, j'en ai gagné 3, il en a gagné 2. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant que pendant 20 ans, on se soit réparti ces victoires-là.
Et c'était avec aussi des physiques très différents, hein, parce que
très
alors vous êtes très très grand, vous êtes très fin, très élancé. Lui, il est petit, râblé, trapu,
très fort aussi physiquement et des styles très différents. Et c'est ça aussi, je pense, qui a fait qu'on a réussi tous les deux à réussir à très haut niveau. C'est parce que on a assumé nos différences et on a construit chacun notre modèle de réussite. Et je crois que la performance, elle n'a pas de recette. Il n'y a pas de recette pour gagner. Chacun doit être capable d'utiliser au mieux son potentiel. Et on avait des potentiels très différents parce qu'on n'avait pas le même physique, parce qu'on n'avait pas le même mental, parce qu'on n'avait pas les mêmes qualités.
Oui.
Et on gagne sur ses points forts. Et quand on n'a pas les mêmes points forts, l'objectif, c'est de trouver un modèle de réussite qui mette en avant ses points forts. Et c'est ça, pour moi, l'enseignement de notre histoire, même avec mon frère, c'est que on n'avait pas le même potentiel au départ et chacun a pu exprimer son potentiel.
Alors, à Sydney, Tony Estanguet, vous avez décroché la médaille d'or, mais vous avez eu ensuite un curieux blues et pendant 2 ans, vous n'avez plus gagné aucune course. Pourquoi ?
C'est pas simple à 22 ans d'éliminer son frère, de prendre une forme de leadership.
Dans un sport.
Dans un sport, mais même dans sa famille.
À l'échelle planétaire.
Mais même dans sa famille. Jusqu'à là, j'étais toujours le petit dernier.
Parce que votre père n'était pas monté aussi haut.
Non, et mes frères étaient toujours, encore une fois, la référence. Et là, en devenant champion olympique, on rabattait un peu les cartes. Et moi, je n'en avais pas tellement envie, parce que ce statut de petit frère qui suivait le mouvement m'allait bien aussi, entre guillemets. Sauf que je ne pouvais plus me cacher, je ne pouvais plus... Et donc tout ça, ça se digère, il faut un petit peu de temps, c'est aussi une période où j'ai continué mes études.
Voilà, en fait, vous êtes inscrit en école de commerce, à l'ESSEC.
Oui, c'était important pour moi, quelque part, j'avais l'impression que pour réussir à très haut niveau, parce que même si à ce moment-là, mes rêves étaient tournés autour du sport, je me suis construit grâce au sport, j'avais envie de continuer à gagner en sport. Mais j'étais conscient aussi que mon équilibre pour gagner en sport devait passer par un à côté et de ne pas mettre toutes mes chances sur le sport. Mais j'avais besoin, pour relativiser aussi l'importance des compétitions, de me dire que tout pouvait s'arrêter à n'importe quel moment parce que j'aurais des diplômes.
Comment vous organisiez tout de même l'entraînement? Parce qu'on est bien loin des rivières tumultueuses quand on est sur les bancs d'un amphi à l'ESSEC.
Ouais, c'est vrai que c'était une organisation qui n'était pas simple où moi j'avais un début de semaine sur Paris et puis une fin de semaine où j'allais m'entraîner sur ces rivières pyrénéennes. Et donc ça a été 3 ans vraiment mobilisé à temps plein, il y avait peu de temps pour souffler, mais ça m'a permis de concilier le sport de haut niveau et les études, et je pense que c'est encore une fois ce qui m'a permis de relativiser le stress des compétitions, parce que je savais que je réussissais aussi mes études à côté et que quelque part mon avenir professionnel ne reposait pas uniquement sur une victoire aux Jeux Olympiques.
Ça n'a pas que permis de relativiser le stress des compétitions, parce que vous avez passé un master en sport management et stratégie d'entreprise à l'ESSEC, donc avec vos coupes et vos médailles, franchement, c'était le cursus idéal pour un futur président de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris.
Oui, alors à ce moment-là, j'imaginais pas une seconde que ça me tomberait dessus, c'était
sûrement
trop loin.
Mais
c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis face à vous avec cette position de président de Paris 2024, parce que effectivement, j'ai concilié la réussite du sport, la connaissance des Jeux Olympiques et des études qui me permettent aujourd'hui de gérer un projet de cette ampleur.
Et puis, alors je continue de dérouler le fil, Tony Estanguet, il a fallu se requalifier alors pour les Jeux suivants, c'est-à-dire les Jeux d'Athènes cette fois-ci. Et vous avez presque revécu le même scénario de combat avec votre frère.
Exactement, on a recommencé, on reprend les mêmes et on recommence. Et effectivement, après cette petite traversée du désert là, sur les 2 années qui ont suivi les Jeux de Sydney, sur les 2 dernières années de l'Olympiade, de 2002 à 2004, je me suis reconcentré à fond sur la préparation des Jeux d'Athènes avec l'objectif de gagner. Et là, je me suis retrouvé de nouveau face à mon frère. Alors peut-être avec un scénario un peu différent, parce que dès la première course, j'ai vraiment pris un peu d'avance sur la qualification. Il y avait
On va dire que l'écart était beaucoup plus important qu'au départ.
Plus important. Et du coup, ça a été, je pense, un peu plus simple à gérer pour nous aussi.
Alors, de nouveau à Athènes, vous décrochez la médaille d'or. Mais ça ne sera pas le cas au jeu suivant, à Pékin en 2008. À Pékin, vous étiez le porte-drapeau de la France, qui est un honneur magnifique, mais c'était vos premiers Jeux Olympiques sans votre papa qui était décédé.
Oui, c'est vrai que ça a été une Olympiade pas simple pour moi, parce que l'équilibre familial était un peu perturbé, enfin très fortement d'ailleurs perturbé, et il a fallu aussi apprendre à vivre avec le décès de mon père, et puis continuer à avancer dans la vie. Mais encore une fois, je pense que j'ai commis des erreurs dans la préparation des Jeux de Pékin qui m'ont permis aussi d'apprendre. Je pense que c'est important de dire que tout n'est pas mauvais dans la défaite. C'est une leçon de vie absolument incroyable. Ça a été une leçon d'humilité très forte pour moi. Si je suis là aujourd'hui aussi face à vous, c'est parce que j'ai vécu l'échec de Pékin. Et ça m'a permis de me remettre en question en ayant compris beaucoup de choses à travers cette leçon d'humilité de Pékin, où je suis arrivé peut-être un petit peu trop sûr de moi.
Un peu trop sûr de vous.
Avec effectivement cet idéal.
On le disait, vous trustiez les deux premières places planétaires, donc avec le fameux Slovaque.
En étant double champion olympique en titre, champion du monde en titre, numéro 1 mondial. Tout le monde me disait autour de moi, mais il ne peut rien t'arriver, tu marches sur l'eau. Moi, j'avais cette envie, non pas seulement de gagner, mais de gagner avec la manière, donc avec un peu trop d'assurance.
Et du coup, vous n'êtes même pas allé en finale.
Et du coup, je passe même pas en finale. Et c'est vrai que là, ça a été aussi une grosse épreuve, parce que j'étais porte-drapeau avec un statut. Et du coup, il a fallu gérer l'échec.
Il paraît que vous avez failli abandonner votre carrière à ce moment-là.
Oui, parce que j'avais 30 ans, j'avais déjà fait 3 Olympiades. Tout le monde me disait, après 30 ans, il y a peu de chances de progresser. Donc, qui te dit que dans 4 ans, tu seras encore compétitif? Finalement, il vaut peut-être mieux arrêter maintenant. Si tu fais le bilan de tes 3 Olympiades, tu en as gagné 2. Bon, et tu as été porte-drapeau sur la 3e, c'est déjà très bien. Qu'est-ce que tu as gagné à continuer à 4 ans et à ne même pas te qualifier dans 4 ans, alors que des petits jeunes viendront te damer le pion? Donc c'est vrai que la question s'est vraiment posée, mais je sentais au fond de moi que la frustration était trop forte pour arrêter là-dessus.
Alors Tony Estanguet, là où l'histoire, au départ cruelle, avec votre frère, prend soudain une dimension magnifique et trouve sa vraie résolution, c'est que votre médaille d'or au JO de Londres en 2012, vous êtes allés la décrocher ensemble, puisque votre frère était devenu votre entraîneur, c'est ça ?
Exactement, exactement. En fait, après l'échec vraiment terrible de Pékin en 2008, quand j'ai souhaité finalement continuer l'aventure jusqu'à Londres, je me suis dit, alors là, il faut vraiment que je me remette en question. Et quel est le modèle qui va me permettre de gagner? Parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai compris avec ces Jeux et cette défaite de Pékin, c'est qu'il n'y a pas de recette déjà définie pour gagner.
Mais alors, qu'est-ce que votre frère vous a transmis qu'un autre entraîneur ne serait pas parvenu à faire? Parce qu'il y a une chose qui m'intrigue. Votre frère, les médailles sont là pour le prouver, était sur le terrain moins fort que vous. Comment un entraîneur peut-il en fait être efficace quand, dans les faits, il est moins doué que celui qui l'entraîne?
Ouais, c'est une bonne question parce que, effectivement, moi j'ai cette conviction que la réussite, elle passe par la capacité à réunir les meilleures qualités sur différents paramètres. Pour gagner en canoë-kayak, il faut être bon techniquement, il faut être bon physiquement, il faut être bon mentalement. Mon frère, c'était le meilleur techniquement. Sur tout le circuit mondial, c'est lui qui avait créé des gestes, c'est lui qui avait la meilleure glisse. Alors après, c'est vrai que sur la partie physique, sur la partie mentale, peut-être qu'il n'avait pas les mêmes ressources. Mais sur la partie technique, il était identifié comme ce génie qui avait su concevoir des formes de bateaux, gestes qui étaient parfaitement adaptés.
Jusqu'au dessin des canoës.
Exactement. Et donc, je me suis dit, si je veux être le meilleur en 2012, il faut que je travaille avec mon frère parce que sur ces paramètres-là, c'est le meilleur du monde. Et j'étais bien meilleur techniquement à Londres que ce que j'étais à Pékin.
Mais oui, Londres, ça a été une Olympiade magique. Alors, votre maman et vos deux frères étaient avec vous à Londres. Et puis, vous rentriez dans l'histoire comme le seul Français à avoir remporté la médaille d'or en sport individuel au cours de 3 Jeux olympiques différents. Et vous pouviez donc ouvrir un autre chapitre. En 2012, vous deveniez le premier Français élu au Comité international olympique. Et l'histoire ensuite va se dérouler glorieusement. On évoque ça dans un instant en compagnie de Tony Estanguet.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Tony Estanguet, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques à Tokyo, vous avez quitté votre mandat au CIO pour devenir très officiellement le président de l'organisation des Jeux à Paris en 2024. Responsabilité, j'ai envie de dire, au-delà du gigantesque. Et vous avouez, au départ, on est venu me chercher pour donner une âme sportive à la candidature de Paris qui avait échoué déjà 5 fois. Alors comment vous y êtes pris et qu'avez-vous imaginé pour que ça marche ?
Pour moi, la magie des Jeux, c'est d'abord le sport et les athlètes. Et donc, effectivement, je crois que la différence par rapport aux dernières candidatures et aux derniers projets, c'est qu'on a su mettre des athlètes en avant pour aller être les ambassadeurs de ce projet. Donc, aujourd'hui, on a 1000 sportifs de haut niveau qui vont régulièrement dans les écoles, dans les quartiers, partager des moments de sport pour embarquer toute cette génération dans une société qui est plus ouverte au sport. Moi, je me suis construit grâce au sport. Je sais que le sport m'a énormément apporté parce que à travers la pratique du sport, on apprend des valeurs autour du respect, de la détermination, mais c'est aussi, encore une fois, un apprentissage d'une société qui est très collective. Et c'est ça que j'ai envie aujourd'hui de porter à travers Paris 2024. C'est pas juste des compétitions pour des sportifs de haut niveau qu'on veut organiser. C'est un projet qui est utile. Le sport aujourd'hui peut apporter beaucoup plus à notre pays que ce qu'il n'a jamais apporté.
Alors, j'insiste sur votre formule « casser les codes ». Vous voulez, à Paris, donc, des jeux participatifs comme jamais. Alors, tout à l'heure, au début de cette conversation, on a évoqué, effectivement, l'odyssée fluviale que sera la cérémonie d'ouverture. Bon, tout ça, c'est festif, mais concrètement, les épreuves. J'ai entendu parler d'un marathon grand public. C'est une première, ça, dans
Exactement.
Les JO.
C'est-à-dire qu'on est même
on
allé...
On n'a jamais invité, en fait... le public à rejoindre les athlètes officiels.
Exactement, c'est-à-dire qu'on, quand on dit que les Jeux seront les plus participatifs de l'histoire, on va même ouvrir la participation du grand public aux compétitions. Et donc le marathon, le même jour, sur le même parcours, des milliers de personnes vont pouvoir participer aux Jeux de Paris 2024. Et ça va être, je pense, une expérience inoubliable pour tous les passionnés de course à pied. Il y aura aussi un format plus court que le marathon, hein. Ouais. On est sur un format... qui n'est pas encore complètement arrêté, mais à peu près de 10
km. Tout le monde ne peut pas courir 42 km.
Et pas dans une logique de performance. Ouais. On n'est pas dans cette logique-là. Moi, j'ai cette conviction qu'aujourd'hui, le sport doit être pratiqué d'abord pour se faire plaisir, d'abord pour être en bonne santé. Mmh. C'est pas forcément que pour faire de la compétition. Et j'ai cette conviction aujourd'hui que ce projet, il doit donner envie à des millions d'enfants, à des millions d'adultes de faire plus de sport.
Vous venez de dire des millions d'enfants. Tony Estanguet, de nouvelles disciplines dont les jeunes sont friands vont faire leur apparition aux Jeux en 2024 ?
Oui, le skate, l'escalade, le breaking...
Le breaking, c'est-à-dire breakdance ?
Le breakdance, tout à fait. Ouais, c'est ce mélange d'athlètes qui physiquement font des choses absolument incroyables, à être capables de tourner
c'est
sur eux-mêmes.
La danse de rue.
Un gainant, exactement, avec un gainage.
Aux États-Unis dans les années 70, quoi.
Ouais, mais c'est même parti d'ici en France, en Seine-Saint-Denis, dans les années 80. Et c'est vrai que c'est fascinant parce que techniquement, physiquement, c'est bluffant. C'est un athlète qui s'entraîne tous les jours. Et ça amène aussi ce côté très artistique, avec une ouverture sur la culture, la musique, les DJ qui mettent l'ambiance. Et c'est un sport qui vraiment mérite à être connu.
Bon, mais alors, une question qui fâche, vous me le permettez, hein,
bien
en
sûr.
Une heure de conversation, Tony Estanguet. Il y aura donc le breaking, breakdance, il y aura donc le BMX freestyle, il y aura le skate. Mais pourquoi avez-vous supprimé le karaté qui a 5000 clubs en France avec 250 000 licenciés et qui nous a valu une médaille d'or à Tokyo ?
Alors, on n'a pas supprimé le karaté, c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Oui, mais il n'y aura pas d'épreuve de karaté en 2024.
Il n'y aura pas d'épreuve de karaté parce qu'effectivement, on avait la possibilité de rajouter 4 sports au programme des Jeux. Au-delà des 28 sports qui sont obligatoires au programme des Jeux, on avait la possibilité de rajouter 4 sports additionnels. Et on a ouvert un appel à candidature. On a reçu 18 sports qui ont souhaité rejoindre le programme officiel des Jeux de Paris 2024, dont le karaté qui était un de ces 18 sports. On a souhaité privilégier des sports qui permettent d'aller chercher des communautés sportives qui ne sont pas du tout représentées dans les 28 sports déjà au programme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les 28 sports qu'on a déjà l'obligation d'organiser, il y a 5 sports de combat. Il y a déjà des sports de raquettes. 3. Il y a déjà des sports collectifs. 6. Il y a déjà des sports d'eau et un certain nombre. Et donc, en allant choisir ces sports, les 4 sports qu'on a choisis, comme l'escalade, ça propose un spectacle très différent des 28 sports qui sont déjà au programme. Idem pour le surf, idem pour le breaking ou pour le skateboard.
Mais il y a quand même 250 000 licenciés en karaté qui vont être
déçus. Oui, mais il y a 1 million de licenciés en pétanque. Il y a le squash où les Français sont également très forts et numéro 1 mondiaux.
Ça ne sera pas représenté en 2024.
Parce qu'il y avait 18 sports qui ont candidaté, il n'y avait que 4 places. Et donc on a privilégié encore une fois des sports qui ne sont pas du tout représentés dans l'univers des Jeux.
Alors j'ai dit une question qui fâche, je vais peut-être en rajouter une. Tony Estanguet, de moins en moins de pays postulent à l'organisation des Jeux Olympiques. Et sans doute pour les mêmes raisons, j'imagine. Parce que, bon, le rêve a un coût, même si, on l'a expliqué tout à l'heure, Paris 2024, c'est vraiment financé par du sponsoring, par des partenariats. Mais vous pensez que dans 20 ans, il y aura toujours des Jeux Olympiques ?
Ah, j'en suis convaincu. Moi, j'en suis convaincu et la démonstration de Tokyo cet été a encore renforcé ce message-là, malgré, encore une fois, un contexte très compliqué, très difficile. Ça a été un événement qui a explosé les audiences. Les gens ont regardé. On a sondé l'opinion après les Jeux de Tokyo et ça a encore augmenté sur le taux d'adhésion aux Jeux Olympiques et Paralympiques parce que ce sont des espaces de respiration où on partage des moments très forts et très positifs. Et je ne suis pas d'accord avec votre analyse de dire qu'il y a de moins en moins de villes qui candidatent parce que...
Ah, ce n'est pas moi qui le dis, oui, c'est un constat dans les faits.
Parce que quand on regarde, les Jeux ont déjà été sécurisés jusqu'en 2032.
Mais en nombre, il y a moins de postulants.
Oui, mais il y a des villes sur tous les continents qui candidatent aujourd'hui. Donc les Jeux en 2028 auront lieu à Los Angeles. Mm-hmm. Les Jeux en 2032 auront lieu à Brisbane, en Australie. Il y a déjà des villes qui souhaitent candidater pour 2036. Donc les gens, c'est loin quand même. Sont déjà à se dire, nous on les veut ces Jeux. Parce qu'on a cette conviction que ce sont une vraie opportunité pour révéler le meilleur de notre pays.
Et puis après 2024, Tony Estanguet, tous les pays vont vouloir postuler pour des JO.
J'espère.
Voilà. Alors, bon, le compte à rebours a démarré à peu près 1000 jours. Ça va passer si vite. Vous n'êtes pas assis dans un canoë depuis combien de temps ?
Alors écoutez, vous savez, l'histoire se répète. Parce que
vous avez un agenda de ministre en ce moment.
Non, mais j'ai trois garçons. Et mes trois garçons, ils font aussi du canoë kayak.
Mais oui, alors, Titouan, qui a 14 ans, c'est ça. Gabin, 10 ans. Léandre, 8 ans.
Exactement.
Et alors, eux, ils ont hérité de la passion de leur père.
Voilà, ils font beaucoup de sport. Alors, il y en a un des trois qui fait déjà du canoë kayak en compétition. Mais donc, avec eux, ça m'arrive assez régulièrement. Alors, pas tous les week-ends, parce que malheureusement, j'y arrive pas. Mais en tous les cas, assez régulièrement, je continue, parce que ça fait partie de mon équilibre et je continue à aimer ce sport. C'est aussi des sports qui, même quand on n'est plus totalement en condition physique, ce qui est mon cas aujourd'hui, permettent de vivre des moments, des émotions fortes, parce que justement, on se laisse porter par les vagues et le courant.
Mais vous faisiez partie d'une fratrie de trois garçons fous de canoë et vous avez fait trois garçons fous de canoë.
C'est ça. Bon, les chiens ne font pas des chats.
Voilà, Tony Estanguet, le lendemain de la cérémonie de clôture de Paris 2024, vous savez déjà à quoi vous rêverez ?
Ah non, j'en ai aucune idée. Je mets toute mon énergie dans la réussite de ces Jeux. J'ai aucune idée vraiment de ce que je vais faire après. Il faudra bien continuer à travailler.
Parce que votre avenir, il est quand même lié au succès de Paris 2024.
C'est ma conviction. Et puis au-delà de ça, c'est un défi personnel. Je veux montrer à quel point ce pays a tout pour organiser des Jeux incroyables, qu'on doit rester ambitieux. Je sais que ce n'est pas toujours le tempérament français. On aime bien un peu râler, se plaindre. Moi, je crois qu'on doit, au contraire, révéler le meilleur visage de cette France, rendre fiers les Français. On va accueillir le monde en 2024 et j'ai envie que ce pays, la France, rayonne auprès des 4 milliards de personnes qui vont regarder ces Jeux, qui se disent « Waouh, quel pays !» Mais quel pays et quel peuple ! Et j'ai la conviction que ces Jeux vont apporter vraiment des opportunités à notre pays. D'un point de vue économique, on va mobiliser 150 000 emplois dans l'organisation de ces Jeux.
Ouais.
Des secteurs comme le tourisme vont être directement impactés très positivement. Les chantiers aussi avec le secteur de la construction et puis tout le secteur de l'organisation qui a beaucoup souffert avec la crise du Covid. Et donc là, il y a tout un secteur qui va, dans les trois prochaines années, bénéficier des opportunités des Jeux.
Alors, que les dieux soient bons avec nous, avec vous, et que la joie et les valeurs du sport triomphent. Merci infiniment, Tony Estanguet.
Merci à vous, c'était formidable.
À bientôt.
À bientôt.